Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse ainsi que toute l'équipe de Nous voilà bien de vous accueillir dans votre magazine 100% Bonnes Ondes tous les samedis matins entre 9h15 et 10h sur RTL. Comme chaque semaine, on vous donne plein d'infos pour vous faciliter la vie et mieux profiter du quotidien. Et c'est parti pour le sommaire. Moins de 15% des Français connaissent la loi en matière d'héritage. On n'a pas forcément envie d'y penser et pourtant, ça se prépare. Alors, quels sont nos droits? Réponse avec Isabelle Louet, journaliste conso vie pratique au magazine Avantage, partenaire de l'émission. C'est un aliment plaisir, gourmand et normand. La crème fraîche est-elle mauvaise pour la santé? C'est avec la crème de la crème des diététiciennes nutritionnistes Solveig Darrigaud-Dartinet que nous examinerons ce produit laitier à la loupe. Cette spécialité britannique remporte tous les suffrages en France. Comment réussir son crumble maison? Liguri Lecomte, chef du site cuisineaz.com, nous donne toutes ses astuces pour régaler nos papilles. L'heure de se réveiller en écoutant Nana Mouskouri. Soyez les bienvenus sur RTL. Alors, il n'est pas que l'amour que l'on reçoit en héritage. Bonjour Isabelle Louet.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue. Vous êtes journaliste conso vie pratique au magazine Avantage, partenaire de l'émission. On doit impérativement recourir à un notaire pour établir un testament ou je peux le faire chez moi?
Non, vous pouvez le faire chez vous, mais on recommande de plus en plus de recourir à un notaire. Pourquoi? Parce qu'un notaire, c'est un officier, ce qu'on appelle un officier public de l'amiable, c'est-à-dire qui est en charge de la justice non contentieuse et c'est lui qui est chargé par l'État d'authentifier les actes de la vie quotidienne. Donc concrètement, quel que soit le domaine, quels que soient les actes que vous voulez, dès lors qu'ils sont rédigés, datés, signés par le notaire, ils sont considérés comme authentiques et revêtent une valeur juridique. Côté de l'héritage, ça veut dire que si vous rédigez votre testament devant notaire, ça vous évitera bien des problèmes et des mésententes lors de la succession. C'est aussi une sécurité pour s'assurer que votre testament sera respecté puisque le notaire l'enregistrera obligatoirement à ce qu'on appelle le fichier central des dispositions de dernière volonté. Et donc, après votre décès, il sera trouvé. Si vous le rédigez à la main, c'est ce qu'on appelle le fameux testament holographe. Vous pouvez le ranger dans un tiroir, dans un coffre-fort ou même le confier à quelqu'un. En revanche, vous n'êtes pas sûr qu'au moment de succession, il sera trouvé. Sauf si vous demandez là aussi à un notaire de l'enregistrer au fichier central, si au bout du compte revient au même, puisque vous paierez environ 150 euros pour cela.
D'accord, mais alors si ça me prend de le rédiger toute seule, en fait je fais comme dans les films, genre je le tape à l'ordinateur, je dois utiliser des formules comme moi, scène de corée d'esprit, comment je fais?
Non, ça les formules vous oubliez, ça n'a aucune valeur. Hein,
c'est d'accord. Les films, hein. Donc, je voulais juste être poli quoi.
D'accord. Voilà, oui, non, c'est joli mais ça sert à rien. Il faut être simple. Vous commencez par ceci est mon testament. Plus il est simple, plus il est précis et moins il sera sujet à caution, à confusion et à litige. Mais attention, un testament holographe, donc celui qu'on écrit à la main, doit impérativement être écrit donc à la main, il doit être daté sur une simple feuille blanche paraffée à chaque bas de page et signé par le testateur, c'est-à-dire par celui qui écrit son testament.
D'accord, donc pas d'ordinateur. Ah ouais, pour la succession, en fait, recourir à un notaire, c'est obligatoire?
Alors, c'est obligatoire dès que la succession comprend un bien immobilier, un patrimoine égal ou supérieur à 5 000 euros, un testament ou une donation entre époux. Alors là, dans ces cas-là, c'est obligatoire. Mais c'est cette succession qui va établir tous les actes nécessaires pour prouver votre qualité d'héritier, vos droits sur un bien. Mais en principe, les successions dont le montant est inférieur à 5 000 euros, on peut prouver sa qualité d'héritier par une simple attestation sur papier signée par l'ensemble des gens qui sont censés hériter. En réalité, ça devient de plus en plus compliqué par les temps qui courent parce que les banques, les assurances vont vous demander de prouver votre qualité d'héritier pour débloquer justement les comptes en banque, résilier les assurances, changer le certificat de la carte grise, enfin, toutes ces petites choses de la vie quotidienne. Et donc, en fait, vous allez quand même vous retrouver devant le notaire qui va établir le certificat de notoriété qui va vous permettre de faire toutes ces démarches.
Donc au final, de toute façon, on se retrouvera toujours devant le notaire, quoi. Hein, grosso modo, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut faire don de nos biens à qui on veut?
pas en France. On peut pas parce qu'en droit français, on n'a pas le droit de déshériter ses enfants, qu'ils soient légitimes, illégitimes, naturels, etc. Dans le jargon du droit, on les appelle les héritiers réservataires. Toutefois, si vous voulez favoriser une personne étrangère à la succession, vous avez quand même des solutions. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la petité disponible d'une succession. Alors, pas de panique, c'est un mot compliqué, mais c'est simplement la part des biens dont vous avez le droit de disposer librement après la déduction faite de la part réservataire, c'est-à-dire de la part qui va automatiquement revenir à vos enfants. Cette quotité, elle va représenter à peu près, si vous avez trois enfants, ça va être 25% en gros du patrimoine. Voilà. Mais pour cela, en revanche, vous êtes obligé de rédiger un testament pour préciser ce que vous voulez donner et à qui. Et là, inutile de vous dire qu'il vaut mieux l'établir devant notaire si vous voulez éviter des ennuis, enfin, après, parce qu'après, les enfants peuvent se retourner contre la personne.
D'accord. Et il faut être marié aussi pour que notre conjoint hérite de quelque chose ?
Oui, là c'est pareil. On regarde la loi, seul le conjoint marié est reconnu dans une succession. Les partenaires du PACS et en concubinage, ils n'ont aucun droit. En revanche, si vous voulez leur transmettre quelque chose, là aussi c'est évidemment possible. Mais là encore, on revient au fameux testament. Dans ce cas, le partenaire vivant du PACS sera exonéré des droits fiscaux, dont on va parler un peu plus tard, au même titre qu'un époux, mais attention, pas un concubin.
Ok. Si par exemple, l'un de mes enfants est handicapé, est-ce que je peux m'assurer qu'il ne manque de rien ?
Alors, vous pouvez vous assurer qu'il manque de rien, mais comme en droit français, comme je vous disais tout à l'heure, le principe, c'est l'égalité entre tous les enfants, vous n'avez pas le droit de l'avantager plus qu'un autre. Vous pouvez à ce moment-là utiliser la quotité disponible une fois que la part des enfants sera disposée. Donc vous pouvez dire, je lègue 3000 euros de plus à mon fils handicapé sur ma quotité disponible. En revanche, il faut faire très attention, parce que si vous lui dédiez un patrimoine qui est trop important au moment de la succession, vous prenez le risque de lui faire perdre, s'il en touche, des allocations ou des aides sociales qui sont attribuées sous condition de ressources, ou de lui imposer de lourds droits de succession.
D'accord, faut faire les calculs pour ne pas vouloir bien faire et finalement l'handicaper, je dirais, davantage, quoi. Est-ce que je peux faire hériter les enfants de mon conjoint ?
Alors là, c'est pareil, c'est un peu compliqué, dans le sens que oui, vous pouvez toujours leur donner une partie de votre patrimoine sur cette fameuse quotité disponible, mais là, le truc, c'est qu'ils vont être imposés à 60% sur les biens reçus. On va en parler, c'est les fameux droits de succession. Donc, si vous voulez qu'ils touchent effectivement quelque chose, il va falloir passer par un autre biais et utiliser, par exemple, l'assurance vie, en les désignant bénéficiaires d'une assurance vie que vous ferez à leur nom. Parce que les 152 000 euros, les premiers euros déposés sur une assurance vie sont exonérés d'impôts.
D'accord.
À condition de déposer l'argent avant 70 ans. Et ça, c'est des détails qu'on vous explique au moment où vous l'ouvrez. Mais là aussi, il faut être raisonnable. Parce que si vous faites un capital d'assurance vie trop excessif pour les enfants de votre conjoint, vos héritiers réservataires, donc vos propres enfants, peuvent attaquer en justice pour demander à réintégrer les sommes dans l'héritage.
D'accord, ok.
Alors, la plus simple, sinon, c'est de les adopter, parce que dans ces cas-là, ils deviennent des héritiers à part entière, au même titre que les vôtres.
Alors, on en a parlé il y a un instant, on va y revenir justement sur les droits de succession dont il dit qu'ils sont hors de prix. Est-ce qu'on peut les réduire ? Ce sont des questions qu'on vous posera dans un instant sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Merci d'être avec nous, on est ensemble jusqu'à 10h. On va dévorer un crumble en fin d'émission. On va s'intéresser à la crème fraîche dans un instant avec Solveig Darrigaud Dertinet. Mais pour l'heure, c'est pas toujours très agréable, mais il faut le faire. On fait un point sur l'héritage. Avec Isabelle Loué, qui est journaliste conso-vie pratique au magazine Avantage, partenaire de cette émission. Isabelle, merci d'être avec nous. Il y a un instant, vous nous parliez justement des droits de succession qui sont hors de prix.
Alors, En réalité, le droit de succession, il sort de prix, mais rien ne va dans la poche du notaire qui, lui, est payé par des émoluments. C'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est un salaire qui touche par l'État okay. et c'est des sommes qui sont fixées par décret. C'est important à savoir. En fait,
d'accord, les droits de succession... D'accord, mais il recouvre quoi
ouais. Voilà, c'est la part taxable des impôts. C'est les impôts qui vous prennent des sous sur la succession. Ouais, mais... Donc, contrairement, en fait, concrètement, après un décès, le notaire doit évaluer l'ensemble des biens du défunt. Donc, ça va des meubles, en passant par les terrains, les logements, les assurances, tout ce que vous possédez. Il en fait un listing, tout est pris en compte. Et là, il établit le montant de la succession et il va partager entre les héritiers. Chacun va alors se voir taxé selon un barème établi par décret.
Mais alors, donc, c'est quand même... balèze, hein, on va pas dire le contraire. Est-ce qu'on peut les réduire? Est-ce qu'on peut les réduire, ces frais de succession?
Oui, alors on peut les réduire un peu. Enfin, en même temps, c'est pas nous qui demandons à les réduire, puisque c'est les impôts qui vont vous faire bénéficier automatiquement d'abattement. Là encore, ouais. c'est fixé par décret et en fonction de nombreux critères, le rang dans la fratrie, si vous êtes handicapé, etc., etc. Donc les droits payés sont calculés selon un barème progressif sur cette part restante. Et par exemple, vous allez avoir 100 000 euros par héritier dans ligne directe. Donc si par exemple vous devez hériter de 150 000 euros, vous ne serez imposé que sur 50 000 euros. Et si en revanche vous avez un héritage où vous allez toucher 50 000 euros, vous n'aurez pas de droit de succession à payer puisque vous êtes en dessous des 100 000 euros, à condition évidemment que vous soyez un enfant en ligne directe. Donc ça, c'est une chose. Sinon, pour alléger la fiscalité, il va falloir faire ce qu'on appelle des donations du vivant, souscrire des assurances vie. Mais tout est réglementé. L'administration fiscale, elle veille. Il n'y a pas de secret. Donc, on ne peut pas donner n'importe comment et à n'importe qui. Donc, par exemple, il faut savoir que tous les 15 ans, vous pouvez donner jusqu'à 100 000 euros de biens immobiliers ou autres à chacun de vos enfants et jusqu'à 31 865 euros, c'est précis, hein, à chacun de vos petits-enfants sans avoir payé d'impôts. Mais ça, si ça, il va falloir le faire devant notaire, vous n'avez pas le choix, hein, parce que sinon c'est fini pour vous et vous pouvez avoir des redressements après, quoi.
D'accord, donc ça, on ne fait rien à la one again, quoi. C'est un sujet trop sérieux pour les régler comme ça, quoi. Et dites-moi, j'y pensais, on l'entend parfois, des gens qui renoncent à un héritage. C'est quand il y a trop de dettes, c'est possible, ça?
Tout à fait. En fait, des gens renoncent aux héritages s'ils ne veulent pas régler les dettes du défunt sur leur fonds propres. Donc, ils renoncent. Dans ces cas-là, c'est une petite démarche qui est en fait assez rapide, qui sont compliquées, mais assez rapides. Il suffit d'écrire au greffe du tribunal judiciaire. C'est les nouveaux noms hein, pour les tribunaux de grande instance, etc. Ou de passer par son notaire qui se chargera de faire la demande au tribunal dans les 4 mois qui suivent l'ouverture d'une succession. Mais il faut faire attention là encore, parce que si vous renoncez, vous, à la succession et que vous avez des enfants, vous transmettez les dettes aux enfants. Donc dans ces cas-là, il faut qu'eux aussi fassent une demande de renoncement à la succession. S'ils sont mineurs, il faudra passer et demander l'autorisation au juge des tutelles pour agir en leur nom, parce que vous n'avez pas le droit d'agir pour eux.
Et là, on donne plein de conseils à nos auditeurs. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas préparé sa succession?
Si on n'a rien, enfin, la loi, elle a tout prévu. Hein. Si rien n'a été mis en place, c'est la loi, justement, qui va désigner les héritiers du défunt après les avoir classés par ordre de priorité. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les enfants, leurs descendants, les parents, et après, vous avez ce qu'on appelle les collatéraux privilégiés, les frères, les sœurs, etc. Oui, c'est. Vous savez, souvent, on raconte et on voit dans les films, on voit souvent qu'il y a le détective privé qui va faire les recherches. Vous avez les généalogistes qui sont payés pour rechercher les héritiers, justement. Et en fait, ils vont chercher jusqu'au 6e degré. Après, on considère que les cousins sont trop éloignés. Donc, si jamais vous pensez, vous dites chouette, pas très fort parce que je dis, mais chouette, ma cousine me fait hériter de 100 000 euros, je suis toute seule. Ouais. Et ben, au pas dernier sûr. Moment, on peut vous sortir un cousin de l'autre côté de la famille. Voilà. Et vous
qu'on appelle les collatéraux.
Voilà.
Les collatéraux privilégiés, les collatéraux ordinaires, ceux dont on n'a pas forcément idée, mais qui peuvent être cachés quelque part.
Les banques d'Amérique, c'est de plus en plus rare.
C'est clair. Et dites-moi, si on n'a pas de famille, qui hérite de nos biens, nos animaux de compagnie?
Alors justement, s'il n'y a vraiment plus aucun petit-enfant, arrière-petite-nièce, en fait, comme on vient de l'expliquer, jusqu'au 6e degré, on considère la loi considère que la succession est vacante et donc les biens reviennent à l'État. à moins que vous ayez prévu de votre vivant un legs à une association. Mais attention, une association qui doit être habilitée à en recevoir, comme l'Institut Pasteur, par exemple.
Eh bien, merci beaucoup Isabelle Loué. C'était passionnant, c'était très clair. Donc, je suis sûre que nos auditeurs ont appris plein de choses. Merci beaucoup pour tous ces conseils Isabelle Loué, c'était passionnant.
Merci,
ça veut dire qu'il faut
bientôt.
Qu'on s'en occupe. On vous retrouve donc au magazine Avantage, partenaire de cette émission. À bientôt Isabelle Loué sur l'antenne d'RTL. J'ai été élevée à ça. On va parler de la crème, parce que je suis normande, messieurs, dames. Bonjour Solveig Darrigaud-Dartinet.
Bonjour Flavie.
Bienvenue sur RTL. Vous êtes diététicienne nutritionniste, auteur du livre « Goûter sain et naturel » aux éditions Rustica. Solveig, moi, de la crème fraîche, j'ai l'impression qu'il y en avait dans mon biberon. Je suis une normande pur jus. Et alors, s'il y a bien un aliment que je ne pourrais pas enlever de mon réfrigérateur et que j'ai toujours, c'est un pot de crème fraîche. Donc, est-ce que c'est un pur aliment plaisir ou est-ce qu'elle a quand même un intérêt nutritionnel, ma crème fraîche?
Ben, la crème fraîche, c'est une matière grasse, hein, donc elle contient surtout des lipides, 30 à 40%, et puis un petit peu de vitamine A et D quand elle est entière, et un petit peu de calcium, donc elle n'est pas inintéressante.
Bon, non mais ça me rassure, parce que il y a un truc aussi, à chaque fois que j'en mets, parce que j'en mets quand même partout, je me dis que c'est quand même la moins grasse des matières grasses, c'est vrai ou pas?
Oui, c'est vrai, avec 30%, donc comme je le disais en moyenne, c'est la moins grasse de tous les corps gras. Donc le beurre, c'est 80%, les huiles, c'est 100% de gras, donc c'est 2 à 3 fois moins que les autres, donc vous avez raison.
Bon, en voilà des bonnes nouvelles. On va se retrouver dans un instant, Solveig Darrigaud-Dartinet, on va faire un point sur cette crème fraîche, ce que l'on peut faire avec, évidemment. Et puis ensuite, on parlera crumble. Alors c'est vrai qu'un crumble avec une bonne cuillerée comme ça, deux crèmes fraîches à côté, c'est quand même le panard. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Alors après avoir parlé héritage, fallait bien y passer parce qu'on est là pour vous informer aussi. Oh là là, maintenant c'est douceur et crème fraîche. J'adore cette musique. She's fresh, fresh, cool and the gang, fresh comme la crème fraîche. Et on en parle avec vous, Solveig Darrigaud-Dartinet. Dites-moi, la crème fraîche, bon, moi j'en mets partout. Hein. Certains disent qu'elle sert principalement à faire des sauces, mais on peut faire plein de trucs avec, non?
Oui, c'est pas réservé déjà au sucré ou au salé. On peut la mettre effectivement à toutes les sauces, mais c'est vrai qu'elle a eu son heure de gloire avec la crème chantilly, donc on l'apprécie assez souvent sous cette forme. Et puis, c'est vrai que ça évite aussi de donner un petit peu d'amertume quand on a des épinards, des champignons. Donc, on rajoute un petit peu de crème. Ça va apporter un petit peu aussi de liant dans un potage. Ça va donner de l'onctuosité. Et puis, dans tous les entremets, les panna cotta, les mousses, les soufflés, les bavaroises, c'est vrai qu'on peut l'utiliser, la décliner dans pas mal de recettes.
Bon, mais est-ce qu'il faut quand même la consommer avec parcimonie, cette crème fraîche?
Mais oui, je suis désolée de vous le dire, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure des matières grasses, même si elle est moins grasse, c'est pas la plus utile. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle contient des acides gras saturés, c'est-à-dire les mêmes que ceux qu'on a dans le beurre. Et les acides gras saturés, c'est ceux qu'on consomme déjà en excès, dans les fromages, dans les charcuteries, dans les viandes grasses, ils se cachent à l'intérieur. Et ils ont un effet délétère sur la santé cardiovasculaire, donc c'est ceux qui sont plutôt à modérer, donc avec parcimonie.
Bon, très bien, je l'ai noté. Mais enfin, bon, si on mange pas de viande, si on mange pas de charcuterie, si voilà.
Oui, voilà, c'est toujours un tout un ensemble à l'alimentation, voilà. C'est pas blanc ou noir, hein. c'est tout un puzzle. Hein.
Très bien. Bon, alors c'est vrai que l'entrecôte ou la côte de porc à la crème avec de la moutarde et des champignons, là, ça fait un peu la totale, quoi. C'est ça que vous dites aussi.
Voilà.
C'est la côte de porc à la normande, quoi. Hein.
Oui, bien sûr. Non, mais bon, après, ça dépend la fréquence. Hein.
Bon, tous les jours, c'est pas nécessaire, quoi.
Voilà.
Dites-moi, je vous disais à la Normande, la crème fraîche, elle vient vraiment de Normandie ou c'est un mythe?
disons que la seule qui a une appellation d'origine contrôlée, c'est quand même une Normande. Donc, faut le relever. C'est la crème d'Isigny, hein, qui est une crème fraîche épaisse pasteurisée, qui a une finesse de goût. Et effectivement, elle doit être fabriquée en Normandie pour maintenir cette AOC. Donc, elle vient bien du Calvados et du Cotentin. Donc, une vraie Normande.
À la maison. Et comment on la fabrique, la crème fraîche, au fait?
Alors, la crème fraîche, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la pasteurisation, c'est-à-dire une légère mise à température pour tuer finalement les micro-organismes. Ouais. Ensuite, on va écrémer. Donc, c'est la séparation entre le gras et le lait, donc plus ou moins écrémé en fonction du résultat que l'on souhaite. Et puis, pour obtenir une crème épaisse, on va ensemencer avec des ferments lactiques, comme pour un yaourt, ce qui va faire mûrir finalement cette crème, lui donner un petit peu d'acidité, l'épaissir et lui donner plus de goût.
Et c'est toujours avec du lait de vache ?
Le plus souvent, oui. On commence à trouver quand même certaines crèmes à base de lait de brebis. Alors, il faut savoir que c'est le même pourcentage de matière grasse. Hein. On est toujours aux alentours de 30-40%. Donc, ça change rien. Mais effectivement, en cas d'allergie, pourquoi pas. Mais on la trouve très facilement. faut aimer. Hein.
C'est quand même spécial. Très...
Comme tous les laitages au lait de chèvre ou de brebis. Hein. C'est vrai que...
L'avantage de la crème fraîche, justement, c'est que ça peut adoucir. On se dit qu'une crème fraîche au lait de brebis, c'est
oui, voilà, même, ça réhausse. Hein.
Et pasteurisé, vous en parliez. UHT, ça veut dire ultra haute température, je crois. C'est quoi la différence? Enfin, ça veut dire quoi,
la différence, c'est qu'on a de plus en plus de crème UHT. Parce que alors, donc, la pasteurisation, c'est 15 secondes à 72 degrés pour faire monter en température. UHT, on est à 150 degrés, ce qu'on appelle un flash, c'est-à-dire 2 secondes, mais ça va permettre justement de conserver la crème plus longtemps, et c'est celle qu'on va trouver à température ambiante dans notre magasin.
Ok, je comprends. À propos de température ambiante, tiens, hier j'ai vu des crèmes liquides fleurettes, et c'est marrant, j'arrive pas à m'y mettre, moi. C'est quoi la différence?
La fleurette, c'est une crème qui reste liquide, qui n'a pas eu cet ensemencement, donc pas de ferment lactique, donc elle a moins de goût, donc je comprends, hein, on choisit aussi en fonction de son goût. Après, c'est vrai que ce côté fluidité peut être intéressant pour certaines recettes, parce que la crème fraîche épaisse, faut la faire fondre, etc. Donc c'est un choix, ça va dépendre un petit peu de l'utilisation qu'on va en avoir.
Ok, d'accord. Comment je la choisis, ma crème fraîche? Parce que il y a aussi la crème allégée. On a plein de propositions.
Oui, alors en fait, le rayon c'est très élargi. Ça va dépendre effectivement du goût qu'on attend. Ça va être de l'utilisation, comme je le disais tout à l'heure. Après, alléger, ça peut être intéressant si on veut économiser. C'est quand même 2 fois moins de gras, donc on réduit encore le quota de gras. C'est-à-dire qu'on est à 15% au lieu de 30%. Donc effectivement, on y gagne en calories. Par contre, on va y perdre en onctuosité. Et malheureusement, l'industriel, il est obligé d'ajouter des additifs, des agents de texture, de la pectine, des caragénases, de l'amidon de maïs, donc pour donner cette onctuosité finalement qui a été perdue par l'écrémage, hein, par le manque de gras. Donc attention, parce que chez certaines personnes sensibles, ça peut donner des troubles digestifs, malgré les petites quantités. Bon, voilà, ça va dépendre aussi si on en met beaucoup ou pas. Et puis, on peut pas faire de chantilly non plus avec une crème allégée. Hein. Faut savoir que si elle est pas à 30 ou 40%, on pourra pas la monter la faire foisonner, comme on dit, en crème chantilly. Donc, c'est vraiment une question de goût. Mais si c'est pour en mettre beaucoup plus, je vois pas forcément l'intérêt.
D'accord. Et dites-moi, la crème crue aussi, sur le plan nutritionnel, c'est plus intéressant?
Oui, alors elle est un peu plus fragile, hein, c'est pour ça qu'elle est au rayon frais. Ceux qui aiment la crème, c'est vraiment celle qu'ils apprécient. Hein, oui, et puis après, c'est vrai que c'est une crème, comme vous disiez tout à l'heure, pour mettre sur un crumble, on va plutôt être sur une crème crue qui va vraiment avoir cette texture, cette onctuosité qu'on n'aura pas sur notre type de crème, hein, ou qui aura moins de goût.
Et je vous disais que moi j'en ai toujours chez moi, mais est-ce que je peux la congeler? J'étais en train de me demander si je peux la
faire. On va éviter. Alors déjà, on fait attention une fois qu'on a ouvert le pot, parce que les gens, ils font pas trop attention, mais sur l'étiquette, on a une date, mais une fois qu'on a ouvert le pot, on traîne pas trop longtemps, quelques jours au réfrigérateur, et puis on fait attention à je la ressors, je la rentre, je la remets au frigidaire, je la ressors, etc. Donc ça, on fait attention. Et par contre, la congeler, non, parce qu'elle va devenir granuleuse. Par contre, on peut congeler une sauce qu'on a fait avec la crème, éventuellement, et on la fait réchauffer. Donc là, on aura un peu moins cet aspect granuleux.
Très bien. Mais c'était passionnant. Et il y a des alternatives à la crème fraîche. C'est un jour où j'étais punie et qu'on
peut. Oui, toutes ces crèmes végétales. Alors, on connaît la crème de coco, la crème de soja, mais vous avez également riz, amande, avoine, bon, qui ont l'avantage de ne pas avoir les graisses saturées dont on parlait tout à l'heure. Elles ont des graisses insaturées végétales. Il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de cholestérol. Elles sont moins caloriques encore. Donc, c'est plutôt des 15%. Elles se rapprochent de la crème allégée, donc 15%. Mais encore une fois, là, lisez les étiquettes parce qu'on a parfois du sucre, on a parfois de l'huile dedans, voilà. Donc il faut bien lire l'étiquette parce qu'il y en a des purs et des moins purs.
Très bien, merci pour ces infos. Bon, on est bien d'accord qu'avec le crumble, je prends de la crème fraîche crue, hein.
Oui,
j'ai le droit. Je peux y aller, vous aussi. Bon bah super, on va se retrouver dans un instant avec Ligori Lecomte qui est chef et qui va nous expliquer la recette du crumble. Ça paraît un peu compliqué comme ça alors que c'est super simple. Merci Solveig Darigaud-Arty.
Merci Flavie, au revoir.
Rappelle votre site www.cuisine3s.fr et Goûter sain et naturel, là, c'est votre livre aux éditions Rustica. A tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bienvenue sur RTL, si vous vous réveillez, c'est le moment de la douceur. Mais nous avons parlé de choses passionnantes et dans ce cas-là, vous pouvez aller retrouver les replays sur l'application RTL. On parlait de l'héritage, on vient de parler de la crème fraîche qui accompagne quoi? Le crumble de Ligori Lecomte. It's so good. Nothing else can be played. Thomas Dutronc, Iggy Pop, Diana Krall, vous l'entendez sur RTL, c'est si bon, mais c'est si bon le crumble. Bonjour Ligori Lecomte.
Bonjour Flavie.
Ah, vous êtes chef du site cuisineaz.com, vous êtes auteur culinaire. Qu'est-ce que c'est bon ça? Pour les novices, c'est quoi un crumble?
Alors qu'est-ce que c'est qu'un crumble? En fait, ça veut dire émietter déjà, donc ça vous spoil un petit peu le fig du dessert, crumble. C'est un dessert anglais. Qui a été créé en fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors pour deux raisons. Les dames avaient un petit peu moins de temps pour cuisiner parce qu'elles allaient aussi travailler. Et puis avec les pénuries, forcément, il y avait beaucoup moins de produits comme la farine, le beurre qui pouvait arriver, le sucre. Et du coup, plutôt que de faire un fond de tarte avec des fruits au-dessus, on mettait quelques petits fruits dans un petit ramequin et puis la pâte, comme on en avait moins, on pouvait l'émietter un petit peu au-dessus. Et puis ça a créé ce super dessert.
Ah mais c'est délicieux, c'est hyper gourmand le crumble.
Ah bah c'est hyper gourmand, hein. Du beurre, du sucre, en plus de ça, ça croustille. C'est difficile de faire plus gourmand, on est d'accord.
Je me dis si Solveig Darigaud-Artinet, diététicienne qui est avec nous, qui est un instant et qui quand même nous invite à la modération, nous écouter. Il y a du beurre, il y a des fruits, il y a de la pâte émiettée. Enfin bon, on va y revenir quoi. Mais c'est le dessert gourmand par excellence avec toujours, moi je trouve en tout cas, cette petite crème fraîche à côté. C'est juste le pied. Le crumble à la pomme, c'est un classique, mais en fait, on peut en faire avec n'importe quel fruit. Hein, c'est un peu
ça. Alors oui, ça c'est clair. C'est en général le premier qu'on fait, c'est le crumble à la pomme. Mais après voilà, on peut partir sur d'autres produits. Moi ce que je vous conseille quand même, c'est de faire attention aux fruits ou aux légumes hein, qui peuvent rendre beaucoup d'eau, beaucoup de jus, comme les prunes, les courgettes si vous faites une version salée. Mais sinon voilà, tout va fonctionner. Puis c'est parfait surtout pour utiliser les fruits un petit peu fatigués qu'on a dans le frigo.
Ah je comprends. Et dites-moi, vous me parliez de courgettes là, ça veut dire que le crumble c'est pas toujours un dessert?
Ah non, pas forcément. En entrée, c'est vraiment génial. Quand le parmesan remplace le sucre, on est sur d'autres saveurs, là, mais c'est tout aussi bon.
Ah mais attends, mais c'est une technique, en fait. On a l'impression que ce sont des fruits avec de la pâte émiettée par-dessus, mais c'est plus une technique, finalement, puisqu'on peut remplacer la pâte par du parmesan, me dites-vous?
Ah mais oui, voilà. De base, en fait, c'était un dessert, mais aujourd'hui, il est vraiment pas rare de pouvoir en faire une petite entrée croustillante et gourmande, hein, sans problème.
On parlait de la pâte, c'est le secret, ça? Qu'est-ce qu'on met dedans? Pour que ce soit aussi délicieux, moi je ne sais pas que des spéculoos qu'on va émietter, si.
Non, alors ça serait une version très très rapide, hein. On pourrait, hein. Mais alors déjà en dessous, donc on l'avait dit, hein, des bons fruits, des bons légumes, et puis pour la pâte, une bonne farine. Alors pas trop de farine. En général, il faut que les proportions soient égales entre la farine, le sucre, le beurre. Si vous mettez un peu trop de farine, ce sera forcément un peu trop sec. Si vous mettez trop de beurre, ce sera pas assez friable. Vous voyez, ça va un petit peu se ratatiner. Donc il faut trouver juste le bon équilibre pour la pâte, et puis voilà, ça sera joué.
Et ça se cuit toujours au four?
Alors oui, alors traditionnellement vraiment c'est ça se cuit au four. Pourquoi? Parce que la chaleur va monter de façon homogène et c'est un petit peu ça la magie du crumble, c'est que l'intérieur va cuire, le crumble au-dessus va dorer et en général dès que le crumble est doré au-dessus, c'est que vraiment il est cuit. On se fie vraiment à cette couleur-là.
D'accord. Et comment je sais moi si le crumble il est cuit?
Alors vraiment, je vous dis, on oublie tout ce qui est température de four par rapport au livre, etc. Temps de cuisson. Faut vraiment vous fier à je vous dis vraiment cette couleur bien dorée. Ouais. Généralement, voilà, vraiment à l'œil, quoi.
Et moi, j'ai déjà essayé d'en faire, hein, mais vous n'étiez pas encore rentré dans ma vie, Ligori, donc c'était plus compliqué. Voilà. Et ben, il n'était pas si croustillant que ça, donc j'étais un peu trop déçue, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui,
les fruits, c'était top et tout, mais la pâte, elle était toute mollassonne, pas cuite, et c'était pas terrible. Comment je peux le rendre croustillant, mon crumble ?
Alors, il y a deux, trois petites astuces. Vraiment, la première chose, ça va être de replacer votre pâte à crumble pendant une heure au frigo. Pourquoi, en fait, si vous la mettez à température ambiante au-dessus de vos fruits, ça va déjà pomper un petit peu le jus des fruits. Et puis, alors, comme vous l'avez dit, ça va un petit peu se détremper, ça aura du mal à croustiller. Donc, on la remet au frais, comme ça, elle va se re-solidifier. Et puis, elle va beaucoup plus facilement dorer une fois qu'elle sera dans le four. On ne le tasse pas aussi hein, dessus. On enfourne dans un four chaud. Forcément, si vous mettez dans un four qui n'est pas préchauffé, bah, ça va retomber à température ambiante. Vous allez avoir une vieille crêpe qui va avoir du mal à cuire. Donc vraiment, ça, c'était important. Et puis alors, après, si vous voulez rajouter un petit peu de noisettes concassées, des petites cacahuètes, vous l'avez dit tout à l'heure, un petit peu de spéculoos émietté dedans, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi pour customiser un petit peu votre pâte.
D'accord, mais je ne mets pas de beurre, quoi. Ça ne sert à rien.
Alors si bien sûr on va mettre du beurre hein, mais vraiment on le laisse refroidir au frigo pour qu'il solidifie tout cet ensemble.
D'accord, et on le sert toujours chaud ?
Alors moi c'est vraiment la différence entre deux crumbles identiques. Ce qui va faire la différence pour moi c'est de manger vraiment tiède. Je trouve que ça change tout. Vous avez ce côté un petit peu plus gourmand que de le manger froid, moi je trouve.
Ok, et ça se garde combien de temps, même si on sait que c'est délicieux et que tout le monde le siffle en un quart d'heure, si on voulait
en général, c'est ça. En général, c'est ça, mais alors la petite info, c'est qu'on peut garder la pâte plusieurs jours. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'œuf dedans. Vous savez, une autre pâte qu'on va faire à la maison, comme il y a de l'œuf dedans, après plusieurs heures, déjà, elle va commencer un petit peu à devenir un petit peu grise. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez la conserver au frigo, mais alors surtout crue. Pour le cuire, vraiment, au dernier moment, on le disait, c'est bien meilleur. Hein. On va pas le réchauffer soit au micro-ondes, ça va être tout mou, tout mollasse. Donc non, on le garde cru au frigo et plusieurs jours, ça peut tenir sans problème.
Bon, on part pour la recette en avant Guingamp, Ligori Lecomte. On vous écoute et puis après,
c'est parti. Très bien. Alors, je vous ai préparé deux petites recettes. Une première recette, ma crumble mangue coco. Donc là, très facile. Hein. Vous allez pouvoir, dans un bol mélangé, écoutez bien, c'est très facile. 120 grammes, là j'ai pris de la cassonade, 120 grammes de beurre salé, 120 grammes de farine. Donc là, vous allez, avec vos petits doigts, mélanger ça du bout des doigts. Vous allez obtenir un mélange qui va être sableux. Et puis vous allez placer ça, on l'a dit, 30 minutes, 1 heure au réfrigérateur, ce serait parfait. Le temps pour vous d'éplucher, de tailler une mangue en petits dés. Vous y ajoutez de la noix de coco, une ou deux cuillères à soupe. Hein. Vous pouvez aussi en mettre dans votre pâte à crumble. Et puis voilà, pour les plus gourmands, vous pouvez rajouter des petites pépites de chocolat blanc. Vous mélangez tout ça. Et puis après, dans un petit ramequin, il vous restera à placer cette préparation. Dans chaque ramequin, votre petite préparation avec mangue, noix de coco et chocolat blanc. Vous saupoudrez de pâte à crumble et puis vous enfournerez dans un four préchauffé, on l'a dit, très important, à 200 degrés pendant environ 20 minutes. Là aussi, hein, on l'a dit, ça sera surtout avec votre œil, selon votre four. Vous attendez que la pâte soit dorée et puis ça sera parfait.
Justement, la noix de coco, on la prend râpée ou pas ?
Alors oui, râpée. Hein. Alors vous pouvez aussi la mettre en copeaux un petit peu au-dessus. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'en mettre la moitié dans votre pâte crumble et puis la moitié avec la mangue. Comme ça, en plus, ça va pomper un petit peu le jus que ça pourrait rendre.
Nickel.
Alors, du coup, je vous ai parlé d'un petit crumble salé. Du coup, je suis mis aussi avec une petite recette salée. Parce que aussi, ça va être un crumble saumon sarrasin. Donc là, pour votre pâte à crumble, pour changer un petit peu, je vais prendre donc 110 grammes de beurre, 120 grammes de parmesan, et puis je vais prendre 60 grammes de farine de sarrasin et 60 grammes de farine de blé. Je mélange tout ça. Vous allez faire, comme tout à l'heure, votre petite pâte à crumble avec le bout de vos doigts. Vous mélangez tout ça et puis vous la replacez 30 minutes au réfrigérateur. En attendant, vous allez tailler un petit peu de saumon fumé. Donc là, je pars pour 4 personnes, 4 tranches de saumon fumé et 150 grammes de saumon frais. Vous allez tailler tout ça en petits dés. Et puis dans une petite poêle, vous allez faire sauter un quart de céleri avec deux poireaux émincés. Vous allez faire cuire ça. Pourquoi ? Parce que ça va rendre un petit peu d'eau. Donc il vaut mieux l'enlever avant plutôt que de le mettre dans le crumble, comme vous disiez tout à l'heure, pour pas trop le détremper. Et donc vous allez mélanger ça avec votre saumon fumé. Et pareil, dans vos petits ramequins, vous placez votre préparation saumon et petits légumes. Vous enfournez avec votre pâte à crumble avec ce petit parmesan. Et puis c'est de la même façon, vous allez enfourner 200 degrés pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que ça soit bien doré. Et voilà.
Ça a l'air trop bon. Merci beaucoup, Ligori Lecomte, pour tous ces conseils.
Merci à vous.
Ça y est, maintenant, on a les papilles tout excités à cause de vous. Bah, bravo, 20 sur 20, hein, Ligori. Ça vaut bien un petit bisou, ça.
Exactement.
Ça vaut bien un bisou que vous partagerez, Ligori Lecomte. Vous êtes chef du site cuisinelazette.com et vous êtes auteur culinaire. Merci à vous. Prenez bien soin de vous.
Merci de la vie. Prenez soin de vous.
Vous
merci beaucoup. À bientôt.
Ligori, à bientôt. L'émission se termine sur les bisous. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter ou si vous avez envie de la réécouter, eh bien le replay vous attend sur l'application d'RTL. Quant à la recette, elle est d'ores et déjà disponible rien que pour vous sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Et la semaine prochaine, 9h15 à 10h pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous, passez le meilleur week-end possible à l'écoute d'RTL, bien sûr. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.